Bonjour et bienvenue dans notre émission « Il était une fois encore Nouailles » sur Radio Évasion. Je suis Christophe Méchin, président de la Maison des Contes et des Légendes de Cornouailles, et pendant les 26 prochaines minutes, je vais vous emmener au pays où l'on n'arrive jamais, celui des contes et des légendes de l'ancienne Cornouailles bretonne. La semaine dernière, nous sommes allés voir ce qui se passait au paradis, là où on ira tous, comme le disait la chanson. Il nous semble donc juste, maintenant, d'aller faire un tour en enfer. Puis dans une seconde partie d'émission, comme vous devez le savoir désormais, je vous lirai une histoire improvisée à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous nous a adressés cette semaine sur notre page des Fesses du Bouc, pour rester dans la thématique d'aujourd'hui. La notion d'enfer a évolué selon les populations qui peuplaient l'Armorique, et plus spécifiquement la Cornouaille bretonne. Il y avait un royaume des morts pour ceux qui n'allaient pas au paradis des Celtes. Ce royaume, c'était celui de Kernounos, Araun chez les gens du Pays de Galles qui reviendront par la suite s'installer en Finistère au 5e et 6e siècle. Selon certaines descriptions trouvées sur Internet et qui malheureusement ne citent pas leurs sources bibliographiques, l'enfer des Celtes était un monde d'en bas, une région sombre et terrible, inaccessible aux rayons du soleil, infestée d'insectes venimeux, de reptiles, d'ours dévorants et de loups carnassiers. Les coupables, toujours dévorés comme le promettaient des Grecs, renaissaient pour souffrir encore et encore. Les grands criminels étaient enchaînés dans des cavernes encore plus horribles, plongés dans un étang rempli de couleuvres et de vipères, et brûlé par le poison qui sans cesse goûtait de la voûte. Les gens qui ne s'étaient pas distingués de leurs vivants résidaient au milieu de vapeurs épaisses et pénétrantes qui s'élevaient au-dessus de ces affreuses prisons. Le plus grand supplice était le froid glaçant qui tourmentait les corps des habitants et qui donnait son nom, Ifurine, à cet enfer désolant. Ce premier royaume s'appelait Tirmasha en Irlande, ou alors Anaun, au pays de Galles, ce qui donnera le breton Anaon, ou encore la plaine des morts. C'était un endroit sinistre, peuplé de fantômes, de démons et de monstres. Le ciel y était toujours sombre et déchiré d'éclairs aux étranges couleurs, et le tonnerre y était remplacé par des cris de souffrance. Le sol était de cendres noires, et les forêts étaient d'angoissantes étendues de végétation morte et pourrissante. Les âmes égarées ou volées y erraient en peine. Les offrandes refusées s'y décomposaient. Mais il y poussait parfois une fleur merveilleuse qui, si on la trouvait, permettait de changer de royaume et d'accéder à celui des fées. Concernant l'enfer des chrétiens, à l'origine, comme nous l'avons exposé lors d'une précédente émission, les Bretons armoricains allaient systématiquement au paradis. L'Armorique étant le corps du grand dragon tué par l'archange Saint-Michel, ses habitants jouissaient d'un statut particulier aux yeux de Dieu. Alors, le diable est venu crier à l'injustice, et Dieu a décidé que les Bretons devaient eux aussi avoir le choix entre le bien et le mal. Satan a fait beaucoup d'efforts pour détourner les Armoricains de Cornouailles et d'ailleurs, du droit chemin. Mais il n'a pas réussi. Alors, il a construit 99 auberges sur la route du paradis, ce qui lui a permis au moins de pouvoir emmener en enfer ceux qui ne savent pas résister à un dernier petit verre pour l'heure. Alors à quoi ressemblait cet enfer chrétien par chez nous? Tout d'abord, l'idée était autrefois répandue en Cornouailles que l'enfer était situé à l'intérieur du globe. Au XVIIIe siècle, selon la revue des traditions populaires de Paul Sébillo, on disait par ici qu'ils étaient au centre de la Terre, à 1250 lieues du sol. Une lieue vaut environ 4,3 km, donc pour ceux qui n'ont pas envie de calculer, 1250 lieues, ça fait 5375 km. Nous avons en Cornouailles deux textes qui nous permettent de nous faire une idée sur les enfers. Le premier fut recueilli par Anatole Le Braz en 1891 auprès de son propre père, tandis que le deuxième se transmet depuis longtemps à Châteaulin pour mettre en garde quiconque aurait envie d'escroquer son prochain. Voici d'abord le conte d'Anatole Le Braz qui concerne un franc-luron qu'on appelait Glaude Arscamb, Claude le Léger. Il passait pour être à demi-païen, préférant la messe de l'auberge à celle de l'église et ne disant de prière ni le matin ni le soir. Un soir d'ailleurs, qu'il était saoul et jurait à faire crouler le ciel, il eut maille à partir avec le diable. Polyque, le surnom du diable ici, vint à lui, l'enleva en croupe et l'emporta en enfer. La vieille mère de Glaud fut bien désolée. Elle aimait son fils qui se conduisait honnêtement envers elle et qui était d'ailleurs son unique soutien. Elle se mit donc à sa recherche par monts et par vaux, mais elle eut beau frapper à tous les cabarets à 6 lieues à la ronde, personne n'avait vu Glaud Arskamb. La pauvre femme, désespérée, résolut de s'adresser à Notre-Dame, qui est bien la sainte la plus puissante de la région. « Voyons, se dit la vieille Maharit, la mère de Glaud, qu'est-ce que je pourrais offrir à Notre-Dame pour me la rendre favorable ?» Elle fit le tour de sa maison, cherchant des yeux quelque objet qui eût chance de plaire à la Vierge Marie, mais hélas, c'était une maison de pauvres, qui ne contenait qu'un misérable lit, un bahut, 2 bancs et une table boiteuse. La Sainte Vierge avait mieux que tout cela. Voilà Maharit bien en peine. « Eh, mais !» s'écria-t-elle soudain en se frappant le front. « J'ai encore ma génisse !» Elle courut à l'étable. La génisse était là. Une jolie génisse au poil roux, mouchetée de blanc, qu'elle avait achetée à la dernière foire de Bray avec le fruit de ses longues économies. Elle la héla doucement. « Viens, Quantic, viens, ma chère petite bête !» Et la génisse vint, croyant que c'était pour recevoir sa provende de chaque matin. Maharit lui passa une longe autour du cou et s'en alla par la grande route. Croyez bien que c'était un vrai crève-cœur de se séparer de Quantic. Il fallait qu'elle aimât bien son chenapan de fils et qu'elle ait très envie de le revoir. Elle entra dans la chapelle avec la génisse et, l'ayant attachée à la balustrade du cœur, elle dit à la Sainte Vierge. « Notre-Dame, celle que voici est Quantic, ma génisse. Si Dieu la préserve, ce sera une bonne vache d'ici peu. Je vous la donne, quoi qu'il m'en coûte, à la condition que dans 8 jours, par votre intercession, mon fils Glaud soit de retour chez son maître, le fermier de Kerberenes. » Maharit récita ensuite 5 paters et 5 aves, puis s'en retourna vers sa maison, laissant Quantic qui meuglait lamentablement à la garde de Notre-Dame. 8 jours après, comme les gens de Kerberenes étaient en train de manger la bouillie d'avoine du soir, dans la cour de la ferme, ils virent arriver un homme à la peau brûlée et qui sentait terriblement le roussi. Tout d'abord, ils ne le reconnurent point, mais lui salua le fermier par son nom. Aussitôt, ce fut un éclat de rire universel. « C'est Glaud Arskamb, c'est Glaud Arskamb !» Mais Glaud, lui, ne riait pas. « Va prendre ta cuillère, lui dit le maître de Kerberenes. Tu arrives à temps pour le souper. Tout en mangeant, tu nous conteras d'où tu viens. » « D'où je viens ?» répondit Glaud Arskamb. « D'un lieu où je vous souhaite à tous de ne jamais aller. De l'enfer. Sans ma brave femme de mère, j'y serai encore. » À partir de ce moment, personne n'eut plus goût à la bouillie d'avoine. On entoura Glaud, on toucha ses vêtements, ses mains, son visage. Pensez donc à un homme qui revenait vivant de l'enfer. Glaud Arskamb raconta son voyage. Il avait retrouvé en enfer des hommes de la paroisse qui lui avaient fait part de leurs tourments. La chose la plus affreuse qu'il ait vue, c'était des gens dont on cardait la chair comme de la laine entre des peignes aux dents aiguës et chauffées au rouge. La vieille Maharit fut avertie en toute hâte. Elle accourut aussi vite que le lui permettaient ses jambes de 70 ans. Glaud l'embrassa avec effusion et lui jura que désormais, il vivrait en chrétien, dévoué à Dieu et à ses saints, mais surtout à la Vierge Marie. Ce fut une scène touchante et tout le monde pleura. Alors, si l'on fait la synthèse de ce qui est dit dans les contes et légendes de Cornouailles, l'enfer chrétien commence par une plage dans laquelle sont enterrés des rochers en or qui affleurent pour tenter ceux qui passeraient par là. Quiconque en vole est emporté aussitôt par le diable. Cette plage borde une mer de flammes au centre de laquelle se trouve une île. Sur cette île se trouve la résidence du diable, un pandémonium sous la forme d'un château de métal porté au rouge, avec des écuries dont les chevaux sont des damnés et qui ont des mains à la place des sabots. Chaque pièce du château est une salle de torture où les âmes perdues souffrent mille morts par des supplices toujours renouvelés. Cette description de l'enfer rejoint celle que contait Hervé Brélivet de Dinéol en 1888, dans son récit qui s'intitule « L'homme à la quittance ». Jean Gompère était infirmier de Dinéol. Homme très entendu, il n'avait jamais manqué de payer régulièrement son terme. La dernière fois qu'il alla payer, c'était je crois à Châteaulin, il ne trouva pas le propriétaire à la maison. Mais comme son fils était là, Jean Gompère lui remit tout de même l'argent. « J'aurai l'occasion de voir votre père à la prochaine foire. Vous lui demanderez de m'apporter alors ma quittance. »« À votre gré, » répondit le fils. Et Jean Gompère rentra chez lui, l'esprit tranquille. Étant probe lui-même, il ne doutait pas de la probité d'autrui, ce en quoi il eut tort, cette fois au moins, car deux jours plus tard, il apprenait la mort de son propriétaire, et la semaine n'était pas finie qu'un sergent de gendarmerie se présentait de la part du fils pour réclamer le terme. « Mais je l'ai payé !» s'écria Jean Gompère. « Le fils le sait bien, c'est à lui que j'ai remis l'argent. » « En ce cas, faites voir votre quittance, » répondit le gendarme. « Je suis chargé de liquider la succession, je dois faire mon métier. » Jean Gompère voulut raconter comment s'étaient passées les choses. « Ta 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 !» reprit le sergent. « Montrez-moi votre papier si vous en avez un. On ne me paye pas avec des paroles. » Naturellement, Jean Gompère ne put pas montrer de papier. « Si dans le courant de la semaine qui vient, » dit l'homme d'armes en sortant, « vous ne m'avez pas fait tenir en mon cabinet la somme de 300 écus, je mets immédiatement saisie sur vos biens meubles et immeubles. » C'était la ruine, la misère noire pour Jean Gompère et les siens. « Comment écarter ce malheur de notre tête » hurlait-il. Et de désespoir, il s'arracha les cheveux à pleine poignée. « Dieu n'est pas juste, non, vraiment, Dieu n'est pas juste !» « Commence donc par t'adresser à lui, » lui fit observer sa femme. « À ta place, j'irai de ce pas trouver le recteur. Je suis sûr qu'il te donnera un bon conseil. »« Avec un bon conseil, on n'a jamais fait 300 écus, » grogna Jean Gompère. Il n'en suivit pas moins l'avis de sa femme. Et le voilà donc de se rendre au presbytère de Dinéol. Le recteur était en train de souper. Mais c'était un brave homme de prêtre qui n'aimait pas faire attendre les gens. Jean Gompère fut introduit dans la salle à manger. Là, il exposa son cas du mieux qu'il put, non sans émailler son récit de plusieurs jurons. Mais le recteur ne fit attention qu'au fond de l'affaire. Et lorsque le paysan eut fini de parler, il lui demanda. « Vous ne mentez pas, Jean Gompère. Il est bien vrai que vous avez payé le fermage qu'on vous réclame ?»« Aussi vrai que je suis le mari légitime de Barbagoff et le légitime père de ses quatre enfants. » « Alors, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'aller trouver votre propriétaire là où il est et de lui demander, après sa mort, la quittance qu'il ne vous a pas remise de son vivant. » fit Jean Gompère, « je ne sais seulement pas quel chemin il faudrait prendre. »« Je vous l'enseignerai, moi, » répondit le recteur. « Je vous entends bien, monsieur le recteur, » répartit le fermier qui croyait à une plaisanterie de la part du prêtre. « L'aller n'est pas difficile, mais il n'en est pas de même pour le retour. » « Croyez-moi, mon ami, je me charge du second comme du premier. »« Mais parlez-vous sérieusement ?»« Sachez, Jean Gompère, qu'un prêtre ne plaisante jamais avec ces choses-là. » Le curé avait dit cela d'un ton grave. Le paysan se mit à tourner son chapeau entre ses mains et murmura, tout décontenancé, « Eh bien, j'irai où il vous plaira de m'envoyer, monsieur le recteur. » Le recteur ouvrit la porte d'une chambre obscure en disant, « Je vais d'abord m'en informer moi-même. »« Pourvu que ce soit au paradis, » pensa Jean Gompère. « Mais cela m'étonnerait fort. Mon gueux de propriétaire ne doit pas être logé à si bonne enseigne. » Le recteur s'était enfermé à double tour. Le fermier l'entendit marmonner à voix basse, « Vite, très vite. » L'oraison terminée, le prêtre reparut. « C'est en enfer qu'il faut que vous alliez, » dit-il dès le seuil. Jean Gompère eut un sursaut d'épouvante. « Acceptez-vous ?» demanda le recteur. « Adieu, Vat !» répondit notre homme après une courte hésitation. Le curé lui imposa les mains, lui traça avec le pouce une croix sur la poitrine et lui souffla sur le front. Et voilà notre Jean Gompère chez le diable. « Je vous promets qu'il n'a pas eu le temps de regarder si c'était des landes d'ajoncs ou bien des champs de seigle qui bordaient le chemin pour s'y rendre. Avant de l'expédier ainsi, toutefois, le recteur l'avait muni de quelques instructions. « Vous aurez bien soin, lui avait-il recommandé, de ne prendre ni la première ni la deuxième quittance que vous offrira votre propriétaire. La troisième seulement sera la bonne. Encore ne la prendrez-vous pas de ses mains, elle vous brûlerait jusqu'à l'os et vous deviendriez la proie des démons. Vous prierez le damné de la poser à terre, puis vous la ramasserez. Vous serez ainsi préservé, car vous aurez mis la terre entre vous et lui. » Je vous ai déjà dit que Jean Gompère était un homme entendu. Il se donna garde de manquer à quoi que ce fût de ce qu'on lui avait prescrit. Tout d'abord, il se trouva quelque peu dépaysé. Il ne voyait de toutes parts que d'immenses roues de feu qui tournaient et tournaient et tournaient encore. Cela lui éblouissait les yeux. Puis c'était une insupportable odeur de roussi qui le fit suffoquer. Il tâcha néanmoins de s'orienter là-dedans tant bien que mal et parvint au château de Satan. Les démons ne purent rien contre lui puisqu'il n'était pas damné. Au bout d'une heure de marche, dans l'immense bâtiment, il arriva dans une coursive le long de laquelle étaient rangés, d'un côté et de l'autre, des fauteuils de fer chauffés au rouge. Dans ces fauteuils étaient assis des damnés. Leur corps demeurait immobile, mais sur leur figure se succédaient sans interruption les grimaces les plus atroces sous l'effet d'une grande douleur. C'est parmi eux que Jean Gompère rencontra enfin son défunt propriétaire. « Comment vous portez-vous, mon maître ?» dit le fermier en soulevant son chapeau avec politesse. « Ah, c'est toi, maudit !» s'écria le damné. « C'est à cause de toi que je suis ici. Tu viens me réclamer ta quittance, n'est-ce pas ? Misérable ! Si tu ne t'étais pas dessaisi de ton argent si sottement, ni moi ni mon fils n'aurions été tentés. » Tout en criant ainsi, il avait tiré un papier de sa poche. « Tiens, la voilà ta quittance !»« Pardonnez-moi, mon maître, mais ce n'est pas celle-là. » « En ce cas, c'est celle-ci, » dit le damné en exhibant une deuxième. « Pas davantage. »« Ah, tu m'ennuies à la fin !»« Essayons la troisième, s'il vous plaît, mon maître. »« La voilà, prends-la donc, grand nigaud que tu es !»« Avec plaisir, daignez seulement la poser par terre. » Le damné s'exécuta. « Merci et bonne chance, » dit Jean Gompère en ramassant le papier et en le pliant soigneusement. « Je n'ai que faire de tes remerciements ni de tes souhaits. Pour moi, c'est trop tard !» Veux-tu cependant me rendre un service ?
Certes oui, à moins qu'il ne s'agisse de me mettre à votre place.
Tu vois ce fauteuil vide à ma gauche ? Préviens mon fils qu'il lui est réservé s'il continue à imiter là-haut mon exemple.
Je m'acquitterai de la commission, ô mon maître.
Et Jean Gompère revint sur ses pas. Une sueur bouillante ruisselait sur tous ses membres. Tout à coup, il sentit un souffle frais lui passer sur la figure. Et il se retrouva dans la salle à manger du presbytère de Dinéol.
Rentrez chez vous, lui dit le recteur. Ne blasphémez plus la justice de Dieu et vivez toujours en homme de bien.
Le lendemain, Jean Gompère se rendit chez le fils de son propriétaire, à qui il répéta les paroles du damné, puis chez le sergent de gendarmerie, qui ne put que constater que la quittance était valable.
Voilà qui termine la première partie de notre émission. Je vous retrouve après la chanson de l'orchestre du Splendide, La Salsa du Démon, un titre de circonstance s'il en est. Merci d'être resté avec nous. Comme chaque semaine, il va s'agir maintenant pour moi de vous lire une histoire créée à partir d'éléments que l'un ou l'une d'entre vous a fait parvenir à notre association. Aujourd'hui, c'est Corinne Gallego qui a été tirée au sort et c'est notre bénévole, un jeune auteur de talent, Raphaël Méchin, qui a improvisé une histoire à partir des éléments que Corinne nous a envoyés sur notre page Facebook. Ces éléments sont des gargouilles qui aident les pauvres, des gens riches qui perdent tout et découvrent les vraies valeurs de la vie, l'amour et la bienveillance. Notre histoire d'aujourd'hui commence donc au pied d'une église avec un homme qui fait la manche chaque dimanche à la sortie de la messe. Il était très pauvre et trop malade pour pouvoir travailler, ce qui l'obligeait à mendier. En général, la recette n'était pas trop mauvaise. Les paroissiens donnaient tous au pauvre homme dans la mesure de leurs moyens. Tous, à vrai dire non. Un couple de gens très riches qui semblaient ne venir à la messe que pour parader dans leurs plus beaux atours ne donnait jamais rien aux mendiants. Pire encore, il riait en le voyant, se moquant de sa pauvreté et de ses habits sales et déchirés. Un dimanche, alors que tout le monde avait quitté l'église et que le couple de riches était parti en riant de la casquette crasseuse du mendiant, ce dernier jeta un coup d'œil à sa collecte. Elle était bien plus maigre cette fois-ci que les autres fois. Il n'avait même pas de quoi s'acheter à manger pour le lendemain, alors que cela faisait déjà 3 jours que son ventre criait famine. Ne sachant trop quoi faire, le mendiant se mit à pleurer, implorant le ciel de lui accorder une solution, quelle qu'elle soit. Il était prêt à travailler plus dur que n'importe qui, dans la mesure de ses moyens, du moment qu'on lui laissa sa chance. Ses paroles montèrent, et avant d'atteindre le ciel, parvinrent aux oreilles de 2 gargouilles de pierre perchées sur l'une des flèches de l'église. Celles-ci se penchèrent pour mieux entendre et, touchées par la supplique de l'homme, descendirent de leur perchoir pour aller à sa rencontre. Lorsque ce dernier se retrouva face aux sculptures animées, il émit un hoquet de surprise avant de tenter de s'enfuir. « Attends !» fit la première des gargouilles. « Nous ne sommes pas là pour te faire du mal, au contraire, nous voulons t'aider. » « Absolument !» renchérit la deuxième. « Nous avons entendu tes supplications et décidé de faire de notre mieux pour que tu puisses t'en sortir. » L'homme avait du mal à en croire ses yeux et ses oreilles. Pourtant, les gargouilles semblaient sincères et n'avaient pas essayé de lui faire le moindre mal. « Vous pouvez vraiment m'aider ? » demanda-t-il, une note d'espoir dans la voix. « Oui !» répondirent à l'unisson les sculptures. « Nous pouvons t'indiquer où se trouve un fabuleux trésor et comment t'en emparer. » Elles lui expliquèrent alors qu'à plusieurs reprises, elles avaient empêché un démon de rentrer dans l'église. Ce dernier, attiré par tout ce qui brillait, avait tenté de pénétrer dans le bâtiment sacré pour y piller les croix et les encensoirs en or.
À chaque fois, elles étaient parvenues à le repousser, l'obligeant à aller voler autre part. Un soir, elles l'avaient suivi jusqu'à sa cachette dans les bois, là où il enterrait le fruit de ses larcins sous une grosse pierre ronde. « Cette pierre, tu ne peux pas la manquer !» firent les gargouilles en cœur. « Dès que tu la verras, tu sauras qu'il s'agit d'elle. » Le mendiant hésita. « Si je comprends bien, dit-il, le trésor consiste en des biens volés à des gens du village. Mais alors, si je m'en empare, c'est moi qui deviendrai un voleur. » « Tu n'as pas à t'en faire pour ça, répondit la première des gargouilles. Le démon est malin. Il ne vole que les biens des gens mauvais qui ont eux-mêmes mal acquis leur trésor et s'en servent à mauvais escient. Si tu les prends, il ne tiendra qu'à toi de t'en servir correctement. Mais, et comment pourrais-je me débarrasser du démon s'il revient et me trouve en train de voler ses trésors? Cela ne va pas lui plaire. » Les gargouilles expliquèrent alors au mendiant comment il devait procéder pour s'assurer que le démon ne lui causerait pas de soucis. Ce dernier écouta longuement, sans les interrompre, et hocha la tête quand elles eurent terminé. « Très bien, alors, c'est ainsi que je vais faire. Je vous remercie, » dit-il. Il se leva et partit en direction de la forêt où était la pierre sous laquelle le démon entreposait ses trésors. Il la trouva après plusieurs heures de recherche, plantée au milieu d'une clairière. Une pierre si ronde qu'on aurait pu croire qu'elle n'était pas naturelle. Il essaya de la pousser, de la soulever, d'abord avec ses bras, puis avec un bâton en guise de levier, mais en vain, la roche ne bougea pas. Il n'avait donc pas le choix, il allait falloir patienter jusqu'à ce que le démon revienne et la soulève lui-même. Le mendiant se cacha derrière un arbre, attendant que la nuit tombe. Quelques minutes après que le soleil se fut couché, il entendit du bruit dans les fourrés. Il vit jaillir une patte griffue à la peau rouge et couverte de poils noirs, bientôt suivie d'un bras, d'un torse et d'un corps entier surmonté d'une tête aux longues cornes recourbées et affichant un sourire mauvais. Le démon tenait un sac rempli d'objets précieux qui tintaient à chacun de ses mouvements. La créature infernale s'approcha et, murmurant un mot, fit se lever sans un bruit l'énorme pierre ronde. Depuis sa cachette, le mendiant vit tout et écarquilla les yeux. Le trésor du démon était incroyable. Il y avait tant de richesses que leur éclat sous la pâle lumière de la lune les faisait briller comme des rayons du soleil. Prenant une grande inspiration pour se calmer, l'homme quitta le couvert de l'arbre et s'avança le plus nonchalamment possible dans la clairière. En l'entendant, le démon se retourna, ses yeux lançant des éclairs. « Qui es-tu pour ainsi m'observer? Parle, avant que je ne te tue !»« J'ai entendu dire qu'il y avait dans cette forêt un démon qui appréciait les jeux, » répondit le mendiant, « notamment les énigmes, presque autant qu'il appréciait les trésors. Je suis le meilleur en énigmes, de tout mon village, voire de toute la région, si bien que personne ne veut plus jouer avec moi. Je me demandais, par hasard, si cela vous intéresserait. » Le démon réfléchit quelques instants, ses yeux brillant d'intérêt. « Très bien, » fit-il finalement. « Tu as raison, j'aime beaucoup jouer, mais uniquement quand il y a une belle récompense à la clé. Voilà ce que je te propose. Nous donnons chacun une énigme à l'autre. Celui qui échoue à trouver la réponse est le perdant. Si je gagne, je récupère ton âme, puisque tu ne sembles rien posséder de précieux. Et si c'est toi qui gagnes, tu emportes tout mon trésor et je ne remets jamais les pieds ici. Est-ce entendu ? » Le mendiant accepta. « Bien, » dit le démon, « c'est moi qui commence puisque c'est toi le demandeur. Voici mon énigme. Qu'est-ce qui perd sa tête chaque matin et qui la retrouve chaque soir ?» Le mendiant réfléchit, creusant dans sa mémoire pour se souvenir de toutes les énigmes qu'il avait entendues, mais rien ne lui vint. Alors qu'il réfléchissait, de plus en plus nerveux, le démon s'approcha de lui avec un sourire gourmand. La peur du mendiant fut telle que la réponse à l'énigme lui apparut comme par miracle. « Un oreiller, dit-il, c'est un oreiller !» Le démon s'arrêta, l'air contrit et en colère, acquiesçant avec aigreur. « C'est à ton tour, dit-il avec agacement. « Alors, je suis immobile pendant la vie et passe mon temps à me promener quand je suis morte. Qui suis-je ? » Le démon réfléchit plusieurs minutes, piaffant, se grattant la tête, soupirant, soufflant et râlant, avant de finalement admettre avec un cri de rage qu'il ne savait pas. « Je suis une feuille d'arbre, » répondit le mendiant. « Tu as perdu. Donne-moi ton trésor et ne reviens jamais. » Le démon, malgré ce qui lui en coûtait, accepta et disparut, ne laissant que ses objets de valeur sous la pierre levée et une forte odeur de soufre. Le mendiant revint au village, plus riche qu'un roi, un grand sourire sur le visage. En arrivant devant l'église, il rencontra le couple de gens riches qui s'étaient tant moqués de lui. Ils étaient là, en train de pleurer. Il leur demanda ce qui n'allait pas. Ils lui répondirent que quelqu'un, la nuit dernière, avait volé tout leur argent, les mettant à la rue. Pris de compassion, le mendiant leur offrit son aide pour gérer sa fortune nouvellement acquise, à la condition qu'ils se comportent désormais bien, tous les deux, en toutes circonstances. Le couple, surpris mais ravi de la noblesse d'âme de celui qu'ils avaient tant raillé, acceptèrent avec joie et tinrent parole, découvrant par là même les vraies richesses du cœur que sont la compassion, l'amour et la bienveillance. Voilà Corinne, je pense que tous vos éléments ont été utilisés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur notre page Facebook. C'est fini pour aujourd'hui, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Il était une fois en Cornouailles, 26 minutes en terre des fées rien que pour vous avec la maison des contes et légendes de Cornouailles. Cette semaine prochaine, nous entamerons le mois de décembre et la période de l'Avent durant laquelle, chaque semaine, nous vous exposerons les traditions de Noël en Bretagne avec des contes de circonstances. Attendez-vous donc à plein de bons sentiments, des miracles et évidemment de la magie propre à cette période si particulière de Noël. D'ici là, Kenavo, à Véchal.